en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Je vous remercie bien vivement, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier. Je vous suis très reconnaissant de ces invitations régulières dans l'enceinte de votre Académie. Je pense que le Président me pardonnera le caractère un petit peu philosophique de l'exposé de ce jour. J'espère qu'il n'ennuiera pas excessivement les autres membres de l'Académie. Vous m'avez posé un sujet impossible à traiter. La tradition des sciences morales et politiques dans la culture anglo-saxonne, il est impossible à traiter car, évidemment, il n'existe pas de culture anglo-saxonne des sciences morales et politiques pour un certain nombre de raisons que je vais indiquer. Premièrement, il n'existe pas d'homogénéité entre les différentes sciences comprises dans cette notion de sciences morales et politiques, économie, sociologie, anthropologie, histoire, géographie, sciences juridiques, etc. Et en particulier, sur certains sujets, les protagonistes de ces disciplines, hélas, tiennent des propos qui ne sont pas compatibles les uns avec les autres. C'est quelquefois le cas, par exemple, entre l'économie et la sociologie. Il y a une question de savoir si la psychologie et la philosophie font partie de sciences morales et politiques. À cet égard, les deux positions se trouvent dans la tradition anglo-saxonne, puisque l'une réduira la psychologie à une science de la nature et non pas une science morale, tandis qu'au contraire, on pourra considérer que la psychologie relève de la science morale dans certaines autres traditions. Et la philosophie est alternativement ou concurremment considérée comme une science ou une procédure réflexive sur la connaissance scientifique ou comme un type de savoir irréductible à une connaissance scientifique. C'est le cas, par exemple, de la tradition Peter Winch. Il n'existe pas non plus d'homogénéité à l'intérieur de chacune des sciences. En particulier, par exemple, pour l'anthropologie, vous avez une tendance à l'anthropologie cognitiviste, naturaliste, qui est aux antipodes de l'anthropologie culturaliste, qui est prépondérante dans le monde anglo-saxon. De manière encore plus significative, je dirais qu'il existe des positions communes au sein de cette tradition, avec des auteurs qui appartiennent à des pays non anglo-saxons. Et enfin, il existe un très grand nombre d'auteurs majeurs qui ont rédigé leurs contributions en anglais alors qu'ils n'étaient pas issus de pays anglo-saxons. Un certain nombre de cas célèbres, n'est-ce pas, parmi d'autres, Karl Hempel, Friedrich Hayek, Karl Popper, etc., venus en particulier du monde germanophone. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la norme, puisque désormais, pour avoir une chance d'être lu au-delà de nos frontières, il faut écrire en anglais ou dans quelque chose qui ressemble à de l'anglais. Et donc, c'est devenu désormais une sorte de culture mondiale, comme vous le savez, par l'effet vraisemblablement d'un mécanisme, puisque je consacrerai quelques mots à la notion de mécanisme tout à l'heure, un mécanisme qui a été théorisé par le sociologue Merton dans les années 30 sous le terme de « Matthew Effect », qui consiste à considérer qu'à partir d'un petit avantage comparatif d'un individu ou d'un groupe d'individus par rapport à un autre, il y a ensuite un avantage cumulatif qui fait que cet avantage relatif tend à générer des avantages supplémentaires. Et c'est ainsi que l'anglais, qui était une langue académique parmi d'autres, pour des raisons que je ne vais pas décrire et que tout le monde connaît, est devenu la langue académique centrale dans pratiquement toutes les disciplines des sciences humaines et sociales ou sciences morales et politiques, avec peut-être prochainement l'avènement du chinois ou du mandarin pour se substituer à cette langue. Il n'y a donc pas véritablement d'unité des sciences morales et politiques dans la tradition anglo-saxonne, si ce n'est peut-être aujourd'hui un certain professionnalisme du milieu académique particulièrement remarquable, peut-être un certain style, une tendance à éviter la rhétorique, à rechercher la précision, une orientation empirique, mais en réalité, il n'y a pas de consensus théorique profond sur les contenus. Ainsi, en économie, la tradition néoclassique, qui est d'ailleurs d'origine européenne et française même, a été confrontée historiquement au XXe siècle au keynésianisme, et finalement, les deux grands paradigmes se sont développés en terre anglo-saxonne. Il y a néanmoins, après ces propos rendant impossible le traitement du sujet que m'avait proposé, il y a néanmoins sans doute une idée centrale qui peut caractériser le développement des sciences morales et politiques en milieu anglo-saxon. Idée centrale qui, évidemment, a été contestée, mais qui est sans doute l'élément le plus saillant de cette tradition. C'est un effort pour précisément considérer que les sciences morales et politiques, ou plus tard les sciences sociales, moins la notion de sciences humaines, qui n'est pas directement en usage, sont des sciences. Sont des sciences, et qu'à ce titre, elles relèvent du discours scientifique ordinaire, même si son objet est spécifique. C'est le principe qui avait été énoncé d'emblée par David Hume dans le traité de la nature humaine de 1754, qui, en anglais, coined the term, n'est-ce pas, de science of man, et qui va, à partir de là, développer ce qu'on appellerait aujourd'hui un programme de recherche assez cohérent jusqu'à aujourd'hui. J'emprunterai donc davantage à David Hume qu'à Adam Ferguson ses principes de base, même si Adam Ferguson est l'auteur en 1792 des Principles of Moral and Political Science, qui permet d'anticiper la naissance de votre académie. Dans l'ouvrage de David Hume, il y a, pour définir cette notion de « science of man », il ne parle pas de science sociale, il parle en revanche de « moral science », deux idées de base, n'est-ce pas, c'est qu'il doit s'agir d'une science empirique informée par une connaissance expérimentale de la réalité humaine et sociale. Et il se réfère ainsi, c'est la deuxième idée, au modèle newtonien pour essayer d'avoir des résultats analogues à ceux qui sont obtenus dans le cadre des sciences de la nature. Comme vous le savez, David Hume introduit également, ou plutôt réintroduit, une notion qui était présente antérieurement en philosophie, la distinction entre le « is » et le « ought », la description de l'être et l'injonction au devoir être. Contrairement à une idée reçue, David Hume ne disait pas qu'il n'était pas possible d'avoir un discours normatif justifié rationnellement. Néanmoins, il pose le problème considérable et certainement constitutif de cette tradition anglo-saxonne du passage d'une description empirique à une analyse normative des normes, des valeurs, et donc la possibilité normative d'une science morale et politique. Hume résoudra sans doute ce problème par référence à l'idée d'émotions naturelles qui orientent vers le respect de certaines normes, mais je ne développerai pas ce point à propos de David Hume. On retrouvera à peu près le même programme chez John Stuart Mill, à peu près un siècle après, dans The Logic of the Moral Sciences, System of Logic. Et je précise toutefois que pour définir ce programme naturaliste, causaliste, scientifique de la réalité sociale, John Stuart Mill se réfère explicitement à Condorcet, qui écrivait donc en français, et qu'il juge être son modèle en la matière, ce qui montre qu'il ne s'agit en rien ici d'une tradition à proprement anglo-saxonne. Je dirais que dans le cadre de cette tradition, mais au-delà de cette tradition, les sciences morales et politiques ont été concernées par trois types d'opérations différentes. Ces trois types d'opérations sont constitutives de ce que peut être une science sociale ou une science morale et politique. Et du point de vue de la philosophie des sciences, ces trois sujets ont été abondamment développés et analysés dans le cadre de cette tradition en langue anglaise. La première opération est une opération de description des phénomènes sociaux et de données sur la réalité sociale. La deuxième opération est une opération d'explication à partir de ces données, de ces phénomènes sociaux, à partir du moment où ceux-ci sont considérés comme énigmatiques, ou de manière générale, d'ailleurs, même s'ils ne sont pas énigmatiques, comment peut-on expliquer un phénomène social ? Et donc, la troisième dimension est une dimension d'évaluation des phénomènes sociaux, de prise de position normative, la question étant de savoir s'il existe une base scientifique enracinée dans les sciences morales et politiques pour parvenir à une telle évaluation. Je vais me référer à un auteur allemand, mais de langue anglaise, lorsqu'il a précisé sa distinction, Karl Hempel, qui indique bien que dans sans doute l'article majeur au XXe siècle, qui a essayé de considérer que les sciences sociales fonctionnaient suivant le même principe que les sciences de la nature, une description répond à la question « what ?», tandis qu'une explication répond à la question « why » et répondre à la question « what » ne correspond pas à une réponse à la question « why ». Alors, il est vrai qu'il existe des critiques récurrentes quant à la distinction possible entre description et explication, avec essentiellement deux grands arguments qui se rejoignent d'ailleurs. Le premier est que pour parvenir à une description pertinente, on a besoin de critères, de normes, et que donc il n'y a pas de description pure qui soit indifférente à un engagement normatif. C'est un argument qui a été développé par Wittgenstein en anglais et qui a été développé ensuite par la tradition de Quine à propos du problème de la traduction. Et ceci a conduit l'anthropologie anglo-saxonne à radicaliser quelquefois sur la base d'une impossibilité entre description et explication à l'idée qu'il n'y a que des interprétations et que ces interprétations sont toujours culturelles. C'est le point de vue décrit par Goertz, mais qui ne correspond pas sans doute à la ligne majeure que je défends pour ma part, présente dans cette tradition anglo-saxonne. Il existe également une autre critique, qui est la critique de la distinction entre explication et évaluation, puisque, et je ne développerai pas ici les arguments qui sont mobilisés, il apparaîtra que les évaluations, les explications correspondent à des jugements de valeur sur les phénomènes qui sont pris en considération. Enfin, la distinction centrale entre fait et valeur a fait l'objet d'une critique radicale, également dans cette tradition anglo-saxonne, et en particulier dans le courant pragmatiste, qui est sans doute l'apport le plus spécifique à cette tradition anglo-saxonne, ou en tout cas américaine, notamment dans les travaux de Hilary Putnam sur « The Collapse of the Fact-Value Dichotomy », l'idée qu'en réalité, nous n'avons pas les moyens conceptuels d'établir une véritable distinction entre faits et valeurs, d'une part parce que toute description de faits renvoie à des normes, et parce que la science elle-même repose sur un certain nombre de normes. Néanmoins, pour ma part, et je ne développerai pas, puisque je n'appartiens pas à la tradition anglo-saxonne, mes propres arguments, je maintiens cette distinction entre description, explication et engagement normatif, et je maintiendrai la distinction également entre faits et valeurs, même si celle-ci, comme je viens de le rappeler, est contestée dans le cadre de cet argument. Il faut intégrer d'autres arguments présents dans cette tradition, la notion de fake concept, les concepts qui sont à la fois descriptifs et évaluatifs, comme il est intelligent, qui correspond nécessairement à quelque chose qui est à la fois descriptif et évaluatif, et donc la construction évolutive des normes de l'analyse scientifique. Si l'on maintient donc une distinction entre ces trois types d'opérations, description, explication et évaluation. Quel est l'apport central des écrivains de langue anglaise sur, disons, les deux siècles ou les deux siècles et demi où ils ont développé ce programme dont j'ai dit néanmoins qu'il n'avait pas fondamentalement d'unité, si ce n'est d'un point de vue normatif. Premièrement, à l'analyse des données qu'on appelle, à la suite d'ailleurs d'usages anglo-saxons, qualitatifs désormais, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas quantitatifs, c'est l'anthropologie britannique, par la voix d'un Polonais, qui a introduit les études de terrain, désormais aujourd'hui si prépondérantes dans les sciences sociales mondiales. Il est intéressant de remarquer que aucun des pères fondateurs de l'analyse sociologique européenne, Weber, Durkheim, Pareto, etc., ne fait référence à la notion d'étude de terrain qui est devenue centrale dans ces disciplines. Et cette étude de terrain a été introduite et formalisée par l'anthropologie britannique et en particulier par Malinowski, qui était polonais, mais dans des textes qu'il a écrits en anglais à propos de son enquête sur les îles Trobriand. Et en fait, ce sont les problèmes posés par l'étude de terrain qui ont conduit une grande part de l'anthropologie britannique à devenir, et puis américaine d'ailleurs, à devenir culturaliste. C'est-à-dire à considérer que l'apport de l'anthropologie révèle une incommensurabilité des cultures et des normes sociales constitutives de ces cultures, à partir notamment de la problématique de l'interprétation de ces cultures et de la traduction d'une culture dans une autre, problème théorisé par Quine, mais qui évidemment peut être dépassé, et je crois qu'ici les positions culturalistes sont tout à fait excessives. D'un point de vue quantitatif, en revanche, c'est plutôt la tradition française qui a essayer de mettre en évidence l'importance de l'analyse de données quantitatives, avec en particulier les grands noms de Quetelet et de Durkheim. C'est la sociologie française qui a conçu le projet d'une analyse du phénomène social à partir de corrélations statistiques interprétées par Durkheim, enfin, ou plutôt décrites par Durkheim en termes de variations concomitantes. Néanmoins, c'est aux États-Unis, et en particulier grâce à Lazarsfeld, un autre Autrichien, que ce type de dispositif va connaître tout son essor, en sorte que désormais, après ses débuts français, il y a un appareil mondial de statistiques qui se fait en anglais désormais pour décrire toutes les situations interprétable en termes de corrélation statistique. Néanmoins, la description, qu'elle soit quantitative ou qualitative, n'est pas une explication. Et de ce point de vue, je suis pour ma part entièrement fidèle à la leçon de Karl Hempel, encore une fois, leçon exprimée en anglais. Karl Hempel avait défini l'idée que pour parvenir à une explication, il fallait se référer à des lois. Et que sans loi, on n'avait pas d'explication pertinente et satisfaisante. Et de ce point de vue, il indiquait une continuité entre les mécanismes explicatifs des sciences de la nature et les mécanismes explicatifs de l'analyse économique. Pour décrire, par exemple, un krach boursier dans une bourse, il faut se référer, d'une part, à des dispositions psychologiques des acteurs, d'autre part, à un environnement institutionnel. Et c'est sur la base de cette combinaison de deux références nomologiques que l'on permet d'expliquer le résultat analysé. À vrai dire, les quatre positions possibles à ce sujet sont présentes dans la tradition anglo-saxonne. La première, c'est l'idée qu'il y a des lois au niveau macrosocial. C'est une idée qui avait été développée initialement par Auguste Comte en France, n'est-ce pas, et qui a été critiquée, et je vais y revenir dans un moment, par John Stuart Mill au milieu du 19e siècle. Mais aujourd'hui, on trouve des auteurs qui défendent l'idée de loi générale du social qui permettent l'explication dans la philosophie américaine des sciences sociales. Je pense en particulier à un auteur qui s'appelle Harold Kincaid. Cette critique de l'existence de lois macrosociales a été engagé par John Stuart Mill, d'abord, au milieu du 19e siècle, et peut-être de manière plus célèbre, en anglais, par un auteur autrichien, Karl Popper, qui critiquait la possibilité de se référer à de telles lois générales de la réalité sociale. C'est donc John Stuart Mill qui a développé, John Stuart Mill, grand épistémologue de l'économie, fils lui-même d'épistémologue de l'économie, le plus grand économiste de son temps, vraisemblablement, et par ailleurs administrateur de la Compagnie des Indes, qui a mis en avant le modèle de base d'une analyse scientifique sociale, qui est de référer les phénomènes macrosociaux à des comportements individuels, ces comportements individuels étant déterminés par des régularités causales à caractère psychologique. Et ces régularités causales à caractère psychologique sont néanmoins pour lui variables potentiellement en fonction des situations sociales, des situations culturelles. Et il a en particulier développé la notion d'éthologie dans un sens différent de celui qui est associé à ce terme aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui il s'agit de l'étude des animaux. L'éthologie consistait à décrire la manière dont les comportements psychologiques peuvent être, dans leur régularité même, variable en fonction des situations sociales. Il avait une réflexion en particulier sur la manière dont les comportements économiques adviennent dans un certain type de situation, mais peuvent être modifiés et changés si les situations elles-mêmes changent. Et évidemment, la troisième position est celle qui consiste à dire qu'il n'y a pas de loi. Alors, qu'il n'y a pas de loi et qu'il n'y a donc pas d'explication qui se réfère à des lois. C'est une position qui a été popularisée essentiellement en Europe et en langue allemande par Diltay. Néanmoins, elle est présente dans la tradition des sciences morales et politiques britanniques, notamment dans le cadre que j'ai évoqué précédemment de l'anthropologie culturaliste, qui va considérer que c'est une illusion parfaite d'assimiler la connaissance que nous avons des sociétés sans écriture à une connaissance nomologique déductive du type de celle que l'on a dans le rapport à la nature. Alors j'ai dit qu'il y avait quatre grands thèmes, donc premier, loi macrosociale, deuxième, articulation des lois micro au niveau macrosocial, troisièmement, absence de loi, n'est-ce pas? Alors évidemment, ces trois positions entretiennent des rapports tordus les unes avec les autres. Et la quatrième position est sans doute la plus intéressante aujourd'hui, et c'est celle qui est la plus analysée dans la réflexion contemporaine sur les sciences sociales, c'est l'idée de se référer à des mécanismes explicatifs. Mécanismes explicatifs qui soient dans la continuité des sciences de la nature, puisqu'il existe des mécanismes explicatifs en physique, en biologie, et qui soient les mécanismes qui permettent de rendre compte d'un certain nombre de phénomènes sociaux, les plus célèbres étant un que j'ai déjà évoqué, le Matthew Effect, c'est-à-dire le fait qu'un avantage à un certain moment génère des avantages supplémentaires au moment suivant. Un autre mécanisme très célèbre, d'ailleurs théorisé par le même Merton, c'est la prophétie autoréalisatrice dont nous avons vu à propos des événements de Grèce il y a quelque temps combien il s'agissait d'un mécanisme social important. Alors la question ensuite est de savoir si les mécanismes présupposent ou non des lois causales. Il y a un débat à ce sujet, débat que j'ai moi-même exploré dans mon ouvrage Social Mechanism and Analytical Sociology, paru à Cambridge University Press. Alors, le plus difficile, finalement, ce sont les évaluations elles-mêmes. Est-ce que les sciences morales et politiques ont la capacité de procéder à des évaluations de la réalité sociale? Il me semble que la position positiviste, à cet égard, est une position d'origine européenne et non anglo-saxonne, essentiellement, avec en particulier de ce point de vue les apports essentiels de Pareto et de Max Weber, même si Max Weber peut être considéré comme non-positiviste, mais avec quand même cette idée qui sera centrale dans l'analyse économique, que, eh bien, au nom de la distinction entre fait et valeur, le scientifique ne peut pas énoncer des jugements de valeur sur la réalité sociale, la notion d'optimum de Pareto n'étant pas une notion normative, ou du moins étant une notion normative d'un type si particulier qu'il ne s'agit pas d'une possibilité de évaluation réelle de différentes situations. Je pourrais revenir sur ce point si on m'interroge. Le culturalisme très important dans la tradition anthropologique, et d'ailleurs l'analyse anglo-saxonne contient toutes sortes de choses de ce point de vue, des études postcoloniales, des études féministes, n'est-ce pas, il y a une grande diversité d'apports. Le culturalisme, lui aussi, renvoie finalement à une impossibilité pour les sciences morales et politiques d'avoir de positions évaluatives. Il me semble néanmoins qu'il y a quatre grandes traditions qui maintiennent, alors à l'intérieur de cette tradition, mais au-delà de cette tradition, puisque ce sont des éléments qui peuvent être généralisé, il existe quatre grandes traditions qui permettent de maintenir la possibilité d'une évaluation scientifique des normes et des valeurs. La première, qui connaît un grand développement, même si c'est David Hume, il y a plus de 200 ans, qui en avait posé les fondements théoriques, aujourd'hui, c'est une position naturaliste. C'est une position naturaliste qui va considérer que il y a une nature humaine qui est responsable de jugements moraux et que ces jugements moraux s'expriment de manière relativement stable par-delà la diversité des situations sociales. Le maire est que souvent, ces jugements s'expriment de manière non réfléchie et de manière non intentionnelle, voire même de manière inconsciente. Le meilleur candidat à l'exemplification de ce type de démarche est par exemple le tabou de l'inceste, n'est-ce pas ? Le tabou de l'inceste qui peut être expliqué de manière assez simple par un mécanisme évolutif de type darwinien. Toute la question aujourd'hui est de savoir si les travaux de psychologie qui sont devenus prépondérants en analyse économique, qui commencent à être très présents en sociologie, mais aujourd'hui, par exemple, les écoles d'économie les plus célèbres en France, qui s'expriment en anglais, font appel essentiellement à des expériences de psychologie cognitive, qui sont d'inspiration américaine, eh bien, toute la question est de savoir si ces travaux de psychologie révèlent une véritable psychologie et ses lois même, ou si c'est en fait la description de caractère psychologique, de caractère culturel particulier, puisqu'il est bien établi que 95% des études de psychologie faites sont faites sur des étudiants américains disons, des 30 dernières années, qui ne sont pas la population la plus représentative de l'espèce humaine du point de vue de ses origines. Le deuxième type de démarche, je crois qu'il me reste 5 minutes, le deuxième type de démarche, c'est l'insistance sur des mécanismes sélectifs de type darwinien ou similaire. Spencer, en Angleterre au 19e siècle, avait indiqué l'importance que les mécanismes de sélection institutionnelle distinguer entre des normes durables et des normes non durables, en sorte que on ait des mécanismes de sélection qui permettent de faire la distinction entre des normes des institutions qui sont viables et d'autres qui ne le sont pas. On retrouve des arguments similaires chez un auteur comme Hayek. La troisième dimension prépondérante dans les sciences sociales contemporaines, c'est une d'inspiration économique. C'est une analyse des choix normatifs et des évaluations normatives à partir d'un modèle du comportement économique, référé au modèle classique de l'homo economicus, qui lui-même tend à être interprété quelquefois sur des bases naturalistes à partir de la notion de selfish genes développée par Richard Dawkins. Le problème général, si vous voulez, de cette démarche est que tout modèle normatif qui s'appuie sur des comportements économiques uniquement dictés par l'intérêt conduisent en principe à des comportements opportunistes lorsque cela est possible et ne rendent pas compte véritablement d'un réel engagement normatif. C'est pourquoi, et de manière classique, et en me référant à votre introduction, et en me référant d'ailleurs à l'apport de mon maître et mon boudon, qui faisait partie de votre académie et qui, hélas, ne fait plus partie, qui d'ailleurs ne faisait pas partie d'une tradition anglo-saxonne à proprement parler, mais qui a été sans doute l'un des deux ou trois sociologues français les plus présents dans la tradition anglo-saxonne, mais qui peut dépasser largement la tradition anglo-saxonne, puisque certains membres de cette académie peuvent illustrer cette tradition. En effet, il faut se référer in fine pour parvenir à des mécanismes explicatifs à la fois de l'émergence des normes, mais aussi de l'adoption de ces normes et de leur défense par les acteurs sociaux, à une notion de raison qui peut être compatible avec des mécanismes de sélection naturelle ou de sélection institutionnelle et qui néanmoins permet de développer une sorte de point d'ancrage interprétatif de l'ensemble des phénomènes moraux et sociaux. Mais ce programme, n'est-ce pas, vaste, évidemment, je ne le décrirai pas ici devant vous puisque j'ai terminé mon temps. Je vous remercie.
Je vais donner la parole à certains confrères qui se sont déjà manifestés et à d'autres qui ne manqueront pas de se manifester, j'en suis sûr. Et vous répondrez, comme vous le savez, de façon groupée en ayant un œil sur la pendule. Monsieur Jean-Robert Pitt.
Merci, Monsieur le Président. Merci, cher Pierre, de ce panorama effectivement très, très riche. Alors, en t'écoutant, je me disais que dans ma discipline qui est la géographie, comme tu sais, je pense qu'on doit avoir une trentaine d'années de retard sur les débats actuels concernant justement la part du culturel, la part du terrain, la part des lois, la part du micro et du macro, tout ce que tu as évoqué. Malheureusement, chez beaucoup de collègues de ma discipline, il est encore très à la mode de ne pas s'intéresser au terrain. Or, tu as dit, les études de terrain sont aujourd'hui prépondérantes dans les sciences sociales mondiales. C'est vraiment la géographie française qui a suivi, avec un peu de retard, la géographie américaine, est aujourd'hui encore dans une phase, bon, pas tout le monde, mais un certain nombre de ténors de la discipline nient le terrain, considèrent que le terrain n'a rien à apprendre parce qu'il est un détail, en quelque sorte, que ce qui compte, c'est de trouver les grands mécanismes, d'où l'influence de la physique chez certains de nos collègues qui ont fait beaucoup de mathématiques dans leur jeune temps et qui restent fascinés par les modèles mathématiques et par la physique en niant toute la part du culturel. Donc, je pense que c'est en train de changer. J'y réfléchis actuellement pour en parler dans ce cénacle dans quelques semaines. Mais je pense qu'aujourd'hui, un certain nombre de jeunes s'intéressent au culturel justement par son particularisme, par le fait qu'il n'entre pas toujours dans les lois. Et au fond, il y a un mot que tu n'as pas prononcé, mais peut-être ce n'était pas le lieu. Mais est-ce qu'on n'a pas trop nié dans un certain nombre de sciences sociales la part de la liberté individuelle et de la liberté collective des sociétés qui au fond agissent en fonction de leurs idéaux qui sont parfois très fondés et qui vont dans le sens de leur bien et parfois pas du tout fondés et vont dans le sens d'une vraie catastrophe pour eux individuellement et collectivement. Donc voilà, c'est autour de cette question de la liberté, peut-être que
je n'ai pas la liberté de te répondre immédiatement, donc j'attends.
Merci. Monsieur le Président Collomb.
Merci, Monsieur le Président. Dans ce que d'aucuns appellent les sciences du management ou de la gestion, dont il est parfois contesté que ça soit des sciences, mais maintenant il y a une section du CNRS, donc officiellement, dont on n'est pas sûr qu'ils appartiennent aux sciences morales et politiques, puisque je ne crois pas que le président les ait prévus dans son programme. Mais il y a une tradition américaine très forte qui s'est développée, évidemment relativement récemment, dans les business schools américaines. Alors on est quand même à la cheville évidente avec l'observation du réel, l'observation des groupes, des comportements des gens. On est assez fortement dans le culturel, puisque les mêmes entreprises sont dans différents pays. On constate que les gens ne réagissent pas de la même façon. Et alors, il y a une grande contestation entre la tradition européenne, où il y a beaucoup de gens qui ont fait des approches cliniques, études de cas, etc., et puis l'approche américaine qui s'est standardisée assez fortement, notamment pour obtenir des thèses et faire des carrières universitaires, vers des études de terrain et des études quantitatives. Ce qui fait qu'on voit des tas d'études de corrélation à partir d'indications quantitatives. Avec un certain nombre de problèmes, c'est que dans le domaine de l'économie, on peut trouver du quantitatif assez facilement. Dans le domaine du fonctionnement des organisations, c'est beaucoup plus difficile. Et les indicateurs quantitatifs sont tirés d'enquêtes, de surveys, enfin ils appauvrissent considérablement la réalité. Et on arrive à des caricatures d'enquêtes qui essayent ou d'études qui essayent de prouver quelque chose, mais qui ne veulent rien dire. Et au détriment de toute tentative de mise en cohérence, de mécanismes explicatifs, etc. Est-ce que cette tendance que j'ai constatée, moi, dans la partie, disons, management-gestion, vous la constatez également dans les autres sciences sociales américaines? Parce que dans le domaine de la gestion, c'est vraiment une tendance très forte et un point de séparation très fort entre ce qui se passe en Europe et ce qui se passe aux États-Unis, avec la difficulté, cependant, que, comme dans beaucoup de domaines, les normes américaines ont tendance à transpirer vers les systèmes européens, et qu'on voit des business schools françaises qui tendent maintenant, pour des problèmes de gestion de leur personnel, de thèses, de publications, à aller vers les tendances américaines, et que ceux qui, disons, voudraient continuer à faire, j'allais dire, du crozier en ce qui concerne l'analyse des organisations ou d'autres tendances, ont beaucoup de mal à tenir le coup face à du faux quantitatif mal digéré.
Merci. Merci beaucoup. Monsieur Saint-Cernin.
Merci, Monsieur le Président. Tout à l'heure, Pierre de Molenaire parlait de Raymond Boudon. Je dois dire que je me souviens du jour où il a été élu maître de conférence à Paris 4. Raymond Boudon nous avait expliqué qu'il y avait beaucoup de candidats, mais qu'il n'y en avait qu'un seul qui méritait d'être élu. Et évidemment, comme un seul homme, nous avions voté pour Pierre de Molenard. Alors, je voudrais lui poser une question, une chose qui me frappe souvent en lisant les auteurs anglo-saxons, c'est le rôle de la fiction dans la description. Le rôle, par exemple, du roman, le rôle du théâtre, et y compris d'ailleurs chez les mathématiciens, et chez les physiciens, je me rappelle, il y a un chapitre dans la théorie physique de Duhem où il est complètement scandalisé par ce qu'il appelle la physique anglaise qui utilise des modèles qu'elle sait faux pour chercher la vérité. Et alors, il faut toute l'autorité mathématique de Poincaré pour expliquer que c'était tout à fait normal et qu'on pouvait aller à la vérité à travers des modèles mécaniques que l'on savait être faux. Et donc la question que je voudrais poser à Pierre de Molenard concerne justement ce rôle de la fiction dans la description.
Monsieur Trichet.
Merci beaucoup. L'exposé était absolument passionnant. Une première remarque sur la langue utilisée. Et je n'aurais pas tendance personnellement à considérer que s'exprimer en anglais veut dire qu'on appartient nécessairement à un cercle anglo-saxon. D'ailleurs, il me semble que vous-même, vous n'appartenez pas vraiment à un cercle anglo-saxon. En tout cas, vous êtes beaucoup plus complexe que ça. Et vous ne manquez évidemment pas d'écrire en anglais, parce que l'anglais est malheureusement le latin mondial d'aujourd'hui. Donc, j'ai été un tout petit peu gêné de voir que vous assimiliez à des anglo-saxons des hommes qui arrivent, s'expriment en anglais naturellement, mais viennent avec leur propre culture, leur propre enracinement, leur propre tradition et aussi leur propre innovation, bien sûr. Deuxième question que je voudrais volontiers poser. Là, pour le coup, je suis extrêmement frappé de voir à quel point, dans alors ce que j'aurais tendance à appeler la pente anglo-saxonne, le darwinisme est vraiment considérable. Dans l'interprétation des phénomènes humains, je vois sans arrêt dans les articles anglo-saxons, entre guillemets, des références qu'on ne trouve pas naturellement dans la pensée française. L'idée que la sélection naturelle nous a fait tel que nous sommes sur des millions d'années est quelque chose qui apparaît maintenant, transparaît, mais me semble appartenir assez profondément au monde anglo-saxon, et j'aurais voulu vous demander ce qu'il en était. De même, quel rôle attribuez-vous à ce pôle philosophique qu'est la philosophie analytique, qui est quand même alors totalement dominante dans le monde anglo-saxon, alors qu'on peut dire qu'il y a une pensée européenne continentale qui n'est pas analytique et qui est très, comment dirais-je, en opposition de phase, on pourrait dire, pour employer la métaphore physique, avec ce que je pense être, mais encore une fois, c'est une question, bien sûr, la pente anglo-saxonne. Un dernier point, simplement pour évoquer l'économiste Allais, qui me semble avoir été l'un des premiers à avoir introduit précisément une analyse behavioriste, comportementale, montrant que l'homo economicus, tel qu'on en avait la conception, pouvait être totalement erroné. Il a été à peu près totalement oublié. Le malheureux n'écrivait pas en anglais. Et il nous montre qu'effectivement, il vaut mieux écrire en anglais si l'on veut faire passer des concepts français ou continentaux. Merci.
Merci, monsieur Casanova.
Merci, monsieur le Président. J'ai été très impressionné par l'exposé qu'a fait notre collègue de cet immense domaine. Et la question que je voudrais lui poser est purement interrogative, au fond. S'il y a une tradition anglo-saxonne, de quelle autre tradition se distingue-t-elle? Parce que vous avez fait allusion à Raymond Boudon, qui se définissait comme appartenant à la tradition de l'individualisme méthodologique, dans lequel il plaçait pour ancêtre aussi bien Tocqueville que Durkheim, que Max Weber, etc. Et si on pense à notre maître Raymond Aron, lui se classait dans une tradition qu'il appelait de la sociologie historique, c'est-à-dire l'idée que la science sociale vise à la compréhension des grandes situations des sociétés, des grandes situations historiques, aussi bien dans leur structure que dans leur évolution. Et est-ce que c'est vraiment étranger au monde anglo-saxon? Parce que je pensais à Parsons, qui a été une étoile dans le monde anglo-américain, qui est un astre un peu éteint maintenant, mais lui-même se rattachait explicitement à la tradition continentale. Au fond, il trouvait un point commun à Weber, à Durkheim et à Pareto, c'est qu'en dernière analyse, chacun de ces trois auteurs, pour une compréhension complète de la société, renvoyait aux valeurs ultimes de cette société, c'est-à-dire proche peut-être, pas tout à fait le culturalisme hermétique d'une culture par rapport à une autre, mais l'idée qu'on ne comprend que si on comprend le comportement des individus, on ne comprend le comportement des individus que si on se réfère à leurs fins ultimes et donc à toute une série. Alors, est-ce qu'il y a une coupure là entre cet univers-là et le monde anglo-américain, ou est-ce qu'il n'y a pas une espèce de consensus occidental général des sciences sociales dans leur diversité, avec des pentes quantitatives, non quantitatives, culturalistes, non culturalistes, historiques, non historiques? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a au fond des sciences sociales occidentales en train de devenir universelles?
Merci. Monsieur Leroy Ladurie.
Vous avez cité Karl Popper, qui est l'auteur de la théorie de la société ouverte qui a suscité l'admiration générale. Or, cette théorie est de Bergson. Je suis un des seuls à le savoir ici, sans doute, dans un ouvrage que je n'ai pas apporté ma documentation, je ne prévoyais pas qu'on en parlerait. Et même Popper a la coquetterie de citer Bergson pour une chose insignifiante à la fin du livre, alors qu'il l'a littéralement pompé.
Merci. Monsieur Brague.
Merci, Monsieur le Président. J'ai été un peu surpris lorsque vous avez parlé de Hume comme celui qui a forgé l'expression « science of man ». Alors, c'est vrai qu'au début du traité de la nature humaine, il dit que la science de base doit être la science de l'homme. Mais il me semble que cette idée d'une science qui aurait un objet unifié, et cet objet étant l'homme, est au moins aussi vieille que Bacon. Dans son œuvre anglaise sur l'avancement des sciences, il décrit de manière finalement assez précise, même s'il n'emploie pas le mot « science of man » et encore moins le mot « anthropology », il décrit tout à fait ce que ça pourrait être, à savoir une science qui recueillerait des données prises à droite et à gauche et qui les mettrait sous un chapeau unique qui serait justement l'homme. C'est une entreprise d'autant plus, un passage d'autant plus intéressant et un programme d'autant plus intéressant qu'il tient très explicitement à se distinguer d'une tradition un peu plus ancienne qui date de 1453 très précisément, même si ça n'a rien à voir avec la chute de Constantinople. C'est la tradition des traités de la dignité de l'homme, ce qui fait que l'objet l'homme, avec un H majuscule, comme considéré comme un objet unique, ce qui ne va nullement de soi, est issu originellement d'une tradition normative, puisqu'il s'agissait de faire l'éloge de cette créature particulièrement remarquable. Et il est intéressant que le programme, en tout cas, d'une science de l'homme soit issu d'une sorte de neutralisation axiologique, excusez le gros mot, de cette tentative. On trouve ça donc chez Bacon. Et la façon dont je passe, si vous voulez, sur le fameux vers de Pope qui traduit en anglais ce que Malebranche avait dit avant lui, je crois que le saut irait plutôt de Bacon à Hume que l'on peut sauter donc ces intermédiaires un peu rhétoriques que l'on trouve chez Pope et chez Malebranche.
Monsieur Ménard.
Merci, Monsieur le Président. J'ai moi aussi été très vivement intéressé par la communication que nous venons d'entendre, qui m'a notamment révélé quelque chose que je percevais de loin, mais d'une façon moins précise, à savoir l'orientation très différente de la pensée américaine aujourd'hui, ou anglaise, et de la pensée française. Mais ce sont surtout deux questions naïves que je voudrais poser, qui vient de la surprise que j'ai eue de ne pas avoir nommé deux aspects de la pensée épistémologique en général. D'abord, le mot « concept » n'est jamais apparu dans cette présentation. Alors, est-ce qu'il est apparu sous d'autres noms, sous d'autres formes, ou est-ce que c'est une notion dont il faut se débarrasser? Et évidemment, à partir du moment où toute science repose sur le réel et sur l'expérimentation, le concept est à exclure. Mais comment peut-on parler alors de gravitation ou d'évolution? Ce sont bien des concepts. Et ces concepts, qu'est-ce qui les fabrique? Ce n'est pas l'expérience, c'est l'esprit. Donc nous trouvons en face d'un redoutable problème dont je ne vois pas très bien comment la philosophie américaine ou anglaise peut le résoudre. Alors il y a un autre mot qui me surprend et qui est très employé aujourd'hui, c'est le mot « cognition ». Je crois qu'il était dans le titre de votre exposé, mais vous n'en avez pas fait usage dans votre développement. Alors, je voudrais tout simplement savoir ce que cela veut dire que cognition. Est-ce que c'est un autre mot pour quelque chose dont on a déjà parlé avant, ou est-ce que c'est un nouvel astre qui se lève ? Merci. Merci, Monsieur le Président.
Merci. Je voudrais revenir sur la fin de votre belle conférence, lorsque vous avez évoqué la démarche de votre maître Raymond Boudon en ce qui concerne le rapport de la raison, du rôle de la raison, donc aux autres facteurs intervenant dans l'objet des sciences morales et politiques, facteurs naturels et facteurs institutionnels. Boudon a exposé souvent sa conception de la rationalité plutôt que de la raison, même si pour lui les véritables causes des comportements humains, ce sont les raisons, ce qui est un thème théoriquement très intéressant et pratiquement aussi, parce que il incite les hommes à se souvenir qu'ils ont un pouvoir et qu'ils sont responsables, qu'ils ne sont pas le jouet de causalités différentes. Mais vous-même, certains ici, ou même peut-être, considérés comme un disciple de Boudon. J'aimerais savoir quel est, à vos yeux, l'élément de parricide qui vous fait vous distinguer de Boudon sur ce problème du rapport de la raison aux autres facteurs du comportement humain. Vous avez la parole, vous êtes le maître du temps, par conséquent, nous vous écoutons.
Messieurs, pour toutes ces questions qui montrent le caractère inadéquat de mon propos, puisqu'il n'a pas réussi à y répondre par anticipation, je crois que le plus simple est que je prenne chacune des questions dans l'ordre et que je les traite les plus rapidement possible, car sinon je n'y parviendrai pas. Je commence néanmoins par M. Casanova. J'ai commencé évidemment par indiquer que le sujet que vous m'aviez proposé était impossible à traiter et j'ai néanmoins, je ne suis pas lorrain, n'est-ce pas, mais j'obéis aux injonctions qui me sont faites. Vous avez bien compris que je ne crois pas à l'existence d'une tradition anglo-saxonne, n'est-ce pas, que je pense qu'il y a des idées, que ces idées circulent, et simplement il se trouve qu'aujourd'hui, en anglais, et sans doute dans le cadre des universités américaines, certaines idées ont plus de visibilité que d'autres. Et certaines de ces idées ne sont pas défendues par des gens qui sont d'origine américaine ou anglaise, qui s'insèrent néanmoins dans un ensemble, comme je disais à Jean Bécher l'autre jour, les deux livres les plus remarquables que j'ai lus sur la théorie de la croissance récemment sont écrits par des Turcs, mais en anglais. Et ce sont un peu des auteurs américains. Il y a quand même une tendance à être ces livres d'Acemoglu et de Roderick. Alors, je commence par la question de Jean-Robert Pitt.
Il est vrai que moi-même, je ne suis pas quelqu'un qui pratique le terrain. Je suis plutôt un théoricien et un épistémologue des sciences sociales. Mais je crois que le terrain est devenu une dimension essentielle des sciences sociales, aussi bien... Et alors, évidemment, ici, ça, c'est quelque chose qui ne doit pas appartenir à une tradition plutôt qu'à une autre, mais le terrain n'exclut évidemment pas les études quantitatives, et les études quantitatives, elles-mêmes, comme le terrain, ne résolvent pas la question de l'explication, qui a toujours un caractère théorique. Et donc, en réalité, ces trois dimensions peuvent être menées séparément ou ensemble, le terrain, les études quantitatives et la réflexion théorique sur les modes d'explication, et je crois, pour ma part, à la spécificité et à la légitimité d'une approche théorique non directement réductible à des études de terrain. La question de la liberté que tu as évoquée est une question qui a été dans la critique des sciences sociales et de leur caractère scientifique, qui a été traitée plutôt par la tradition allemande ou de langue allemande d'Hiltay, qui évoquait, comme toi, la singularité comme expression d'une liberté individuelle qui ne pouvait pas être subsumée sous des lois générales. Tandis que quelqu'un comme John Stuart Mill pensait que le sentiment de la liberté n'était pas incompatible avec un déterminisme causal. Voilà. Bon. Alors, ce sont des questions complexes hein, que je ne vais sans doute pas épuiser maintenant. J'espère que tu me le pardonneras. Mon sentiment profond, si tu veux, c'est que la géographie culturelle qui a été et qui le demeure, je crois, une des gloires de notre université, Paris-Sorbonne, est quelque chose qui n'est pas incompatible avec les démarches quantitatives et la référence à des scénarios causaux. Tout cela, d'un certain point de vue, peut être réconcilié, ne devrait pas être opposé. Simplement, il est certain que les méthodes quantitatives n'épuisent pas la richesse du terrain et son intérêt et son importance. Voilà, première réponse. Deuxième réponse à M. Lafarge. Excusez-moi.
Vous n'êtes pas le premier.
Voilà. À M. Collomb. Vous voyez, c'est un biais cognitif. Je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est typiquement le genre de scénario que peut décrire les dites sciences cognitives, c'est-à-dire, et qui est Humeien en réalité. C'est-à-dire que c'est Hume qui avait décrit comment les associations d'idées pouvaient avoir un rôle causal dans les représentations d'un acteur. Je crois que vous avez parfaitement fait le diagnostic. Les sciences de gestion sont profondément divisées entre deux approches. La première est celle, finalement, qui est dans la continuité de l'analyse économique, qui consiste à considérer qu'il y a des types de comportements universels qui sont la base sur laquelle on peut déployer un savoir empirique de gestion des organisations. Et de l'autre, il y a une très grande insistance sur la variation organisationnelle. Il y a des surveys qui sont faites comme cela sur la manière dont une entreprise chinoise n'est pas gérée de la même façon qu'une entreprise de Singapour. Et je dirais que le journal qui est à côté de moi reflète cette dualité d'approche entre quelquefois la célébration de modèles qui sont jugés universels et d'autre part la dénonciation de modèles qui sont considérés comme culturels. C'est une ambiguïté profonde, en sorte que les sciences de la gestion sont assez représentatives de cette dualité qui traverse cette tradition que j'ai évoquée. Néanmoins,
je ne me référerai pas à Jean Béchler, mais à John Stuart Mill. John Stuart Mill avait bien indiqué, et je l'ai rappelé tout à l'heure, que, en réalité, une analyse naturaliste n'est pas incompatible avec une analyse culturaliste, puisque, et c'est le terme d'éthologie qu'il utilisait dans les Principles of a Moral Science, puisque, en réalité, il n'existe pas de principes psychologiques à l'état brut, et qui sont toujours adaptés et variables en fonction des circonstances. Et donc, en réalité, il y a un moyen de rapprocher ces deux choses, le problème général étant celui des normes d'une organisation dans une société capitaliste, et vous savez qu'il y a à cet égard plusieurs normes possibles. Monsieur Saint-Cernin, fiction-description. Je vous remercie du rappel de cet épisode heureux dans mon existence d'une commission présidée par vous-même. Tout scénario contrefactuel, puisque c'est ainsi qu'on introduit l'existence de fiction dans la description des faits, tout scénario contrefactuel présuppose en réalité des raisonnements causaux sur les conséquences, et donc en réalité fait partie d'une description élargie. Que se serait-il passé si, etc. Et si on peut poursuivre la phrase commençant par si, c'est qu'on a une idée des conséquences. Et si on a une idée des conséquences, c'est qu'on a des mécanismes causaux permettant de lier les différents événements, même fictifs. Et donc, en réalité, vous êtes dans une situation où c'est une description élargie des possibilités factuelles de savoir. Maintenant, quelquefois, dans ces raisonnements fictifs, on excède le savoir factuel que l'on a. Et donc, ça devient de vraies fictions qui sont moins utiles, en réalité, parce qu'elles sont spéculatives sans avoir un raisonnement causal sérieux qui permette de les... John Stuart Mill, par exemple, indique comment peut-on juger de la question de savoir s'il faut ou non développer le libre-échange. Et il indique, on pourrait comparer deux sociétés qui seraient exactement pareilles en tout point, sauf sur la question du libre-échange, l'une l'adoptant, l'autre le refusant. Puis on verra si l'une est plus prospère que l'autre. Et si on avait cette conclusion, on pourrait, alors ceteris paribus, c'est-à-dire il faudrait vraiment que les sociétés ne se distinguent en rien d'autre, en déduire que le libre-échange est favorable ou défavorable. Mais il en déduit que cette fiction est impossible parce que les données ceteris paribus ne le permettent pas. Et il introduit alors une autre fiction, n'est-ce pas, qui est l'idée de la construction d'un modèle, c'est-à-dire la caractérisation de modèles équivalents ceteris paribus, mais qui sont en réalité des fictions, puisqu'ils ne se rencontrent jamais dans la réalité. Et donc les fictions peuvent être trois choses différentes, soit des scénarios purement fantaisistes et improbables, qui sont relativement inutiles, soit des scénarios contrefactuels qui présupposent un savoir factuel, soit des constructions idéales typiques qui laissent de côté certains aspects pour en retenir d'autres. Alors, Monsieur Trichet, trois remarques. La première, je le répète, n'est-ce pas, je ne crois pas à l'existence d'une culture anglo-saxonne, en réalité. Je pense que c'est quelque chose qui est plus complexe que cela, mais j'ai répondu à la demande qui m'était faite. Et néanmoins, je crois que quand vous faites l'effort, que pour ma part je n'ai pas fait et que je n'ai pas souhaité faire, de prendre un poste aux États-Unis, d'être intégré au système universitaire américain, je ne suis pas sûr que vous gardiez énormément de choses de vos origines culturelles, car le système de sélection est suffisamment sévère pour y être entré, c'est que vous y étiez déjà avant, en réalité, et que là, il y a quand même un certain type de réquisite. Alors, le darwinisme, vous avez, alors, d'un point de vue théorique, c'est la grande invention anglaise du 19e siècle. Même si cette notion de sélection naturelle se trouve chez Spencer avant Darwin. La France, c'était le lamarckisme. Hein. Alors, oui. Néanmoins, n'est-ce pas, et je l'ai évoqué rapidement, n'est-ce pas, je crois qu'une analyse darwinienne des phénomènes sociaux n'est pas pertinente, en réalité, et que, en revanche, une analyse lamarckienne des phénomènes de sélection sociale est pertinente. Il faudra un jour que je développe cette idée. Mais plus spécifiquement, Darwin a été conscient d'un problème lorsque Jean Béchère m'avait invité à participer à une séance ici sur un colloque sur la moralité. J'avais fait référence à des travaux darwiniens contemporains de Jonathan Haidt. Et en fait, Darwin avait eu cette idée profonde que je vais exposer maintenant, qui est la suivante, et de dire... Si les acteurs n'avaient pas la notion de gène, Darwin, mais si les individus n'ont que le but d'une reproduction égoïste individuelle, eh bien, ce type de disposition est défavorable à la mise en place de l'organisation sociale et devrait conduire à la perte des individus en question. Et il écrit... Darwin, donc, que pour résoudre ce problème, il faut faire l'hypothèse qui est purement spéculative. Alors, pour une science empirique, là, c'est vraiment réussi, c'est de la pure fiction, n'est-ce pas ? Il faut faire l'hypothèse que ce sont des individus en groupe qui sont sélectionnés et qui ont dans leur équipage mental des capacités de respect de règles altruistes. Parce que sinon, le problème du développement du groupe ne serait pas réglé. Donc Darwin avait vu le problème, avait apporté une réponse spéculative, et c'est cette réponse spéculative qui est aujourd'hui explorée par les gens qui s'occupent de ce type de sujet. Pour ce qui est d'aller, vous avez tout à fait raison. C'est lui qui a. Et d'ailleurs, Raymond Boudon avait beaucoup exploré cette idée d'aller sur le fait que les modèles d'utilité espérée ne correspondent pas au comportement effectif des individus. Il ne l'avait pas véritablement traité dans une approche expérimentale behaviorale. C'était simplement une analyse conceptuelle et empirique du fait que le modèle ne correspondait pas à ce qu'on pouvait observer de manière ordinaire. Mais vous avez raison, c'est quelqu'un... Ce qui montre d'ailleurs, encore une fois, la relativité de ces frontières intellectuels, c'est quelqu'un qui pourrait être associé à la genèse de ce type d'analyse. Et c'est vrai que c'est un auteur américain ou israélien, je ne sais pas comment il faut qualifier, Kahneman, qui a pris la paternité de ce type d'idée, qui se trouve en effet chez Allais. Bon, il est vrai aussi qu'ils ont donné une extension beaucoup plus grande à ce type d'analyse que celle que Allais lui avait donnée. Alors, Monsieur Casanova, d'une part sur l'existence d'une tradition anglo-saxonne et d'autre part sur la sociologie historique de Raymond Aron rapportée à l'individualisme méthodologique de Raymond Boudon. Je répète encore une fois, n'est-ce pas, que je ne crois pas... Pardon, d'ailleurs, je poursuis sur un aspect qui a été évoqué par M. Trichet que je n'ai pas traité, la question de la philosophie analytique. Je répète donc encore une fois que, pour ma part, je ne crois pas à l'existence d'une tradition anglo-saxonne en tant que telle. Là aussi, j'ai raconté à Jean Béchler une petite anecdote que je vous décrit maintenant à tous. Il m'avait commandé un petit livre, une histoire de la théorie sociologique, quand je venais d'être recruté à Paris-Sorbonne. Bon, alors, et j'avais fait une petite histoire de la théorie sociologique par auteur et par thème. Et puis le dernier chapitre, je l'avais fait par tradition et culture. Alors j'avais mis la culture anglo-saxonne, la culture allemande, la tradition allemande, la tradition française, etc. Puis quand je lui ai montré le manuscrit, il m'a dit « Votre livre est parfait, sauf le dernier chapitre. Il n'y a pas de culture nationale. Il n'y a qu'une science générale. » Et donc j'ai dû refaire le livre en réintroduisant. Et je pense que sur le fond, il avait raison. Je ne l'ai pas fait simplement par docilité, mais par conviction en réalité. Je crois qu'il n'y a pas réellement dans le monde des sciences morales et politiques de spécificité ultime des traditions nationales, que les idées, comme je l'ai dit au début de mon propos, circulent et que les mêmes idées sont défendues soit à l'intérieur d'un contexte national ou d'un contexte linguistique, soit de manière transversale aux différents contextes, je pense, et d'ailleurs même pas dans le monde occidental, n'est-ce pas, puisque cela implique des Japonais, des Chinois maintenant. J'ai eu l'occasion de faire cours dans une business school chinoise en décembre, n'est-ce pas. Weber dit « La science, c'est bon, même si un Chinois comprend », ben, il comprenait apparemment. Alors, je ne sais pas si c'est par adaptation extrême au contexte des sciences occidentales, mais bon, il y a quand même la possibilité de tenir des, de développer des savoirs qui ne soient pas strictement culturels. La philosophie analytique, alors... quelqu'un de ma génération, n'est-ce pas, en France, devait choisir en sociologie entre Boudon et Bourdieu, et devait choisir en philosophie entre la philosophie analytique et la philosophie continentale. C'est pas, voilà, esprit de groupe. Je crois que vous avez compris en sociologie quelle était mon orientation. Pour ce qui est de la philosophie analytique, moi, je fais partie des gens très rares, n'est-ce pas, très rares, hélas, qui récusent cette distinction. Qui récuse cette distinction. Je crois qu'il y a de la philosophie sérieuse et de la philosophie moins sérieuse. Et que cette philosophie sérieuse peut se reconnaître à certains traits généraux, même si je ne m'engagerai pas dans leur description. Et que cette philosophie sérieuse se trouve dans toutes les langues, et à toutes les époques. Et qu'inversement, il y a de la philosophie non sérieuse qui est sans doute de plus en plus fréquente depuis que la philosophie est distinguée des sciences, n'est-ce pas ? Ce qui finalement n'était pas le cas de manière classique, à mon sens. Voilà, moi, c'est une distinction qui ne me convient pas. Voilà. De toute façon, je ne suis pas professeur de philosophie, je suis professeur de sociologie. Aron était marqué en effet par la tradition allemande. Je ne sais pas quelles étaient exactement les positions de Raymond Aron sur la controverse, parce qu'il y a eu vraiment controverse entre trois positions que j'ai évoquées. La position d'Auguste Comte, qui est celle de l'existence de lois générales de l'évolution sociale. Position critiquée par John Stuart Mill en disant qu'on n'a pas de loi générale de l'évolution sociale, qu'on n'a que des lois du comportement individuel qui peuvent permettre d'interpréter des régularités sociales générales. Et la position de Diltai, qui est de dire eh ben, il n'y a pas de loi du tout, il n'y a que des singularités individuelles. Puisque Diltai récusait l'assimilation, et c'est lui qui est responsable de ce divorce, entre science sociale ou science humaine et science de la nature. Il me semble que la manière dont Raymond Aron abordait cette tradition ne permet pas de répondre exactement à cette question. Et comme je vous l'ai dit à l'instant, n'est-ce pas, je ne crois pas, moi, à une tradition vraiment monolithique. Et je crois qu'il y a des travaux sérieux un petit peu partout, dans toutes les langues, mais que maintenant, désormais, c'est l'anglais qui fédère la communauté académique internationale. C'est ainsi, n'est-ce pas, c'est une situation de fait. Alors, Monsieur Bragg, Science of Man, j'ai dit que c'était Hume qui avait coined the term, n'est-ce pas ? Je n'en suis pas sûr, à dire vrai. Moi-même, j'ai écrit un livre sur Homo economicus, et je pense que le terme apparaît pour la première fois chez Pareto, mais je n'en ai pas la preuve absolue, puisque je n'ai pas lu tous les textes antérieurs à Pareto. Et pour Science of Man, généralement, on considère que c'est David Hume qui a mis en évidence ce terme, avec cette association avec une démarche expérimentale et cette référence à Isaac Newton. Maintenant, en effet, tout ceci est tout à fait dans la continuité de Bacon, mais sans doute que par rapport à Bacon, le programme de David Hume est plus complet puisqu'il se réfère à une psychologie, à l'application de cette psychologie, à l'émergence de normes sociales, etc. Une application à l'économie puisque David Hume était un économiste remarquable, etc. Mais je suis tout à fait prêt à concéder d'une part le rôle important dans cette tradition de pensée de Bacon. Et d'autre part, le fait que la notion d'homme, du coup, elle, est beaucoup plus complexe et que, évidemment, plus ancienne et ayant des significations normatives. Simplement, je crois que c'est David Hume qui a défini l'idée que l'on aurait désormais une science humaine, morale, il ne parle pas de science sociale, basée sur l'expérimentation. Et ce qu'il dit est intéressant parce que l'expérimentation, c'est pas l'expérimentation des sciences cognitives d'aujourd'hui, c'est la comparaison de toutes les sociétés humaines. En réalité, David Hume définissait un projet comparatiste. Voilà, on sait ce qu'est l'expérience humaine, et c'est à partir de cette expérience humaine qu'on peut reconstruire les catégories de la connaissance, même si David Hume avait, et je crois en cela, c'est quelqu'un d'absolument remarquable, le sens des limites de ce type de connaissance. Monsieur Ménard, deux remarques, deux réponses. Sur la notion de concept, j'ai bien indiqué, je crois, qu'il n'y avait pas de description neutre, que les descriptions supposaient des interprétations et que c'était une des lignes d'attaque contre l'idée qu'il pût y avoir des descriptions purement empiriques, les descriptions présupposant des normes. Et évidemment, la caractérisation conceptuelle d'une description entre entièrement dans ce type d'analyse. Et je ne crois, pour ma part, évidemment pas qu'il y ait de description sans recours à des concepts. Et les concepts posent le problème, évidemment, de leur origine. La notion de cognition, c'est sans doute, bien que ça vienne du latin, un anglicisme maintenant, cognition. En fait, ça a une histoire très, très précise, l'invasion cognitiviste dans les sciences sociales. En fait, ça se fait en trois temps. Le premier temps, c'est la psychologie behavioriste, celle de Watson. La psychologie behavioriste laisse de côté, aussi étrange que ça puisse paraître aujourd'hui, mais enfin c'est comme ça, les processus cognitifs pour s'intéresser simplement aux réactions entre les stimuli et les réactions. Et ça a été la psychologie dominante, n'est-ce pas, avant la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis. Et une grande partie des sciences sociales de l'époque, l'économie notamment, était inspirée par cela. Et en fait, il y a un mouvement dit cognitiviste qui a été introduite, qui correspond à une critique très précise de cette psychologie behaviorale sur le modèle de l'intelligence artificielle, etc., introduisant l'idée que dans la boîte noire, n'est-ce pas, entre les inputs et les outputs, il y avait des raisonnements qu'on a appelés cognitifs. Et ces modules cognitifs font partie de cette psychologie cognitive qui, aujourd'hui, est vraiment, je pense que dans les institutions qui sont représentées ici, sont enseignés en haut lieu, n'est-ce pas, maintenant nous avons dans notre presse Paris-Sorbonne l'INSEAD, n'est-ce pas, l'INSEAD n'enseigne que ça désormais, hein. Je sais puisque je m'en occupe, et c'est donc la psychologie cognitive qui ensuite envahit l'économie. Et comme l'économie est la science dominante aujourd'hui, la science cognitive est devenue le modèle dominant d'interprétation des comportements individuels. Donc voilà un petit historique de cet usage de notions de cognition. Et enfin, je terminerai, vous m'avez invité à un parricide que je ne réaliserai pas. Raison, rationalité... et raison au pluriel, la raison, les raisons et la rationalité. Moi, j'ai un petit désaccord avec Raymond Boudon, mais ce n'est pas un parricide, il le savait, je lui avais dit, mais mes désaccords ne l'intéressaient pas beaucoup. Je crois qu'au fond de lui-même, il était très kantien, hein, bien qu'il m'ait dit un jour, et il m'a dit de ne pas le répéter, mais je le répète, que pour lui, le plus grand, c'était Hegel. Écoutez, c'est la première fois que je le répète, puisque maintenant ça appartient à l'histoire. Oui, il était au fond de lui-même kantien, c'est-à-dire qu'il pensait que la rationalité, c'était quelque chose qui faisait sortir du règne de la nature. Et il pensait qu'il y avait une irréductibilité des modèles se référant à la raison et à la liberté, à des mécanismes biologiques. Pour ma part, mais c'est un sujet de philosophie complexe, n'est-ce pas ? Je pense que la rationalité a un enracinement biologique, n'est-ce pas ? Et que c'est quelque chose qui ne doit pas être séparé, mais qui doit être traité simultanément. Cet usage raison au pluriel, raison au singulier, est un effet aussi d'un anglicisme, parce qu'on dit reasons en anglais, et c'est quelque chose qui, dans la tradition de la réflexion sur les causes et les raisons, a été introduit dans une opposition. Écoutez, pour ma part, mais je ne développerai pas cela, je crois, comme d'autres ici, que la rationalité est une disposition naturelle du comportement humain, que cette rationalité conduit à résoudre les problèmes qui sont posés aux individus et aux membres des sociétés, que néanmoins, cette résolution donne lieu à des normes qui sont ensuite sélectionnées, admises, reproduites, etc. Et que cette rationalité, néanmoins, est fondamentalement à la fois une rationalité évolutive, historiquement, qui ne correspond pas à des invariants définitifs forts, et qui est variable dans ses adaptations à différents sujets. Enfin, mais bon, c'est un sujet complexe en soi que je ne vais pas développer maintenant.
Je vous remercie infiniment. Je suis... si vous permettez cet aveu, vous venez de faire un aveu fort intéressant en ce qui concerne la prise de position de Boudon. J'avoue que vous ne laissez pas de m'inquiéter un tout petit peu lorsque vous rejetez la distinction que vous avez entre la philosophie analytique, la philosophie continentale, parce que Ricoeur, lui aussi, voulait les réconcilier. Mais j'ai admiré beaucoup la clarté, la rigueur, l'aisance de votre propos. Vous avez donné un exemple de très belle conférence et je vous exprime mes plus vives félicitations en vous renouvelant mes plus grands remerciements. Merci.